Alors, j'ai été invité à parler du Brésil pour deux raisons. Un, c'est que j'y habite et que je connais raisonnablement. Là, je ne connais pas d'autres pays, donc ça. Et d'autre part, parce que le Brésil, dans cette affaire, a un rôle un peu particulier. Il a un peu changé. Il a été, pendant un certain temps, considéré comme un pays solution. Et depuis, j'ai l'impression que de plus en plus, il tient le rôle du méchant dans l'affaire et qu'il devient un pays problème. Là, c'est ce dont le président Lula s'est plaint, puisque partout où il allait, il était très bien reçu en tant que président des biocarburants, et maintenant il est assez mal reçu comme président des agrocarburants. M'entendez?
Oui, très bien.
Très bien. Alors, j'ai un PowerPoint que je vais vous montrer parce que ça va faciliter les choses. Je vais le suivre de mon côté, donc je pense qu'on peut déjà passer les images suivantes. Le fond d'écran. C'est une vue aérienne du Brésil avec des grandes parcelles consacrées à différentes cultures. Et vous pouvez voir des cercles, ce sont les périmètres irrigués, les cercles irrigués, qui font à peu près 60 hectares. Je peux vous donner l'échelle de la chose. Donc on est vraiment dans de l'agriculture très lourde. Alors j'ai choisi comme titre le Brésil, ferme du monde, point d'interrogation, puisque c'est la question qu'on peut se poser face à la crise alimentaire et aux problèmes alimentaires dont on vient de parler. Certains disent, mais c'est pas compliqué, il y a des régions dans le monde qui produisent beaucoup et qui produisent même en excès, et donc c'est peut-être pas la solution. Je vais passer à la suivante. Alors, le Brésil, dans cette affaire-là, c'est effectivement un poids lourd de la production agricole, puisque vous avez sous les yeux le palmarès que je ne vais pas lire dans son entier, mais vous voyez que c'est un pays qui est dans les tout premiers rangs mondiaux pour un certain nombre de grands produits, café, canne à sucre, orange, différentes sortes de viande et le soja dont on vient de parler, et cette production augmente constamment et probablement elle peut encore augmenter. Donc c'est ça qui a fait penser, qui a fait dire qu'on pouvait penser que c'était un pays solution. Suivante. Alors vous avez sous les yeux la taille du Brésil, vous avez l'échelle qui est en bas qui vous dit que ça fait en gros 4 000 km sur 4 000, donc c'est très grand, mais comme c'est très difficile de se représenter ce que c'est, j'ai pris un petit subterfuge didactique, la suivante. Il vous montre que ce que ça veut dire, 8 millions et demi de kilomètres carrés, ça veut dire qu'on case à l'aise à l'intérieur du Brésil les 27 pays de l'Union européenne, j'en ai même rajouté quelques-uns, dont la Norvège qui ne tient pas très bien et quelques autres. En réalité, là, le Brésil, c'est deux fois en superficie l'Union européenne des 27. Donc il y a énormément de place, beaucoup d'espace, et ça, c'est probablement une des dimensions qui n'est pas très bien perçue, pas très bien comprise en Europe, puisque ben, tant qu'on n'est pas allé voir sur place, on a du mal à imaginer ce que c'est que ces tailles-là. Et en particulier, la question de la concurrence entre plusieurs systèmes agricoles, à mon avis, est très largement fausse, puisque ça se passe dans des endroits différents et avec des systèmes différents. La suivante. Là, vous avez une représentation des types d'usage du sol qu'on a au Brésil. Non pas d'usage du sol en général, mais dans les exploitations agricoles. À l'intérieur des exploitations agricoles. Ce qui est en vert, c'est les endroits où l'usage prédominant, c'est la forêt. Principalement en Amazonie, ça ne vous surprendra pas. Quand c'est en jaune, l'usage prédominant, c'est l'élevage. Vous voyez que l'essentiel du Brésil hors Amazonie est principalement consacré à l'élevage. Ce n'est que quand on a des taches rouges qu'on a des zones où la prédominance est agricole. Les taches grises, pour finir, c'est des endroits un peu équilibrés. Vous voyez qu'en ajoutant le rouge et le gris, ça fait quand même assez peu de zones qui sont consacrées principalement à l'agriculture. 7% pour être précis. La suivante. Alors, là où les choses commencent à se compliquer, c'est qu'en fait, on n'a pas une, mais deux ou trois agricultures différentes. Là, vous avez les structures agraires, et en simplifiant énormément, on a regroupé les grands, les moyens et les petits. Les petits, c'est ceux qui sont dans les zones les plus claires, c'est essentiellement le Nord-Est et la Haute Amazonie. Ce qui est dans une couleur rose intermédiaire, ce seraient les exploitations moyennes, c'est-à-dire entre 10 et 100 hectares, ce qui pour le Brésil, c'est ce qu'il y a de plus moyen. Et en rouge vif, c'est les très grandes exploitations d'élevage, de soja, de canne, etc., qui sont au-dessus de 100 hectares. Et bien sûr, ça va très au-delà, puisqu'on a, il n'est pas rare de trouver des exploitations de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. La suivante. En réalité, on a vraiment deux systèmes. Là, cette carte a été faite avec le recensement agropastoral de l'an dernier, donc c'est des chiffres tout récents. On a mis en couleur contrastée les systèmes d'exploitation. Quand c'est dans les verts, c'est des endroits où la majorité ou une part importante de la main-d'œuvre est la main-d'œuvre familiale. Vous voyez que c'est le cas de la plus grande partie du Nord-Est et du Sud. Et quand c'est orange, jaune ou rouge, c'est une prédominance des salariés. Ça, c'est le système de l'agro-business qui fonctionne principalement, comme vous voyez, dans le centre-sud du pays et où sont produits les grands produits d'exportation dont on a parlé il y a quelques minutes. La meilleure preuve de ça, la suivante, c'est qu'en fait, on a deux ministères de l'agriculture au Brésil. J'ai pris hier une copie des deux sites des deux ministères. Ça, c'est le ministère de l'agriculture tout court et du ravitaillement. Vous voyez que beaucoup des thèmes qui sont traités en première page du site, ce sont des thèmes agro-business ou agro-carburant. La suivante. Ça, c'est le site de l'autre ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement agraire, qui lui est intégralement tourné vers la petite agriculture, la réforme agraire, les territoires protégés, etc. Vous voyez qu'un rien qu'à regarder les photos et les titres, même si vous ne parlez pas le portugais, vous voyez bien que c'est complètement un autre système. Alors, je vois pas le public, mais je peux imaginer quelques sourires, mais je rappelle quand même que jusqu'à une date récente, la France avait deux ministères des Affaires étrangères. Un qui s'occupait des grands pays développés et un autre qui s'occupait des colonies et ex-colonies, qui s'appelle le ministère de la Coopération. Bon, ça a disparu, mais quand même, ce n'est pas un système extravagant d'avoir deux ministères pour s'occuper de deux missions complètement différentes, ce qui est le cas au Brésil. La suivante. Alors, quelques images vous pouvez laisser passer les quatre photos, il y a quatre photos qui vont se mettre en place. Quelques paysages du soja, on a parlé tout à l'heure du désert vert. Bon, il est plutôt jaune ou jaune-vert, parce que c'est les couleurs nationales du Brésil, que vert. C'est vrai qu'une grande partie du territoire national est maintenant consacrée à une agriculture extrêmement mécanisée, avec des moissonneuses-batteuses qui parfois sont montées sur chenilles, comme vous voyez en bas, quand le terrain est trop humide. Et des batteries de camions qui exportent tout ça. La photo en bas à gauche étant une photo de propagande. On n'a jamais 40 moissonneuses-batteuses côte à côte. Mais c'est quand même très mécanisé, effectivement. La suivante. L'autre grande production, c'est la canne à sucre. Bon, ceux qui n'ont jamais vu de la canne à sucre, en voilà. Vous pouvez laisser passer les quatre photos qui viennent pour remplir l'image. Les paysages couverts de cannes, effectivement. Alors là, c'est l'océan des cannes. Les camions transporteurs. Celui-là a un nom très joli puisque en portugais, un camion, ça se dit un camignon. Et quand il est triple comme celui-là, ça s'appelle un trémignon. Bon, maintenant, il y a des quadrimignons et des pentamignons, donc ça perd un peu de son intérêt. Ça circule sur les routes et quand vous circulez dans ces coins-là, vous allez faire attention, vous croisez des monstres comme ça, il faut faire attention. Tout ça termine dans des distilleries ou dans des raffineries comme on voit au-dessus. Il y a la raffinerie, la sucrerie et la distillerie côte à côte. Pour produire des océans d'alcool, 18 milliards de litres l'an dernier, qui servent en grande partie aux voitures. Depuis 20 ans, il y a un quart d'alcool dans l'essence, les voitures brésiliennes banales. Et depuis 2002, depuis la généralisation de l'invention des voitures flex-fuel, l'essentiel du parc automobile, toutes les voitures neuves qui sortent, sont maintenant capables de fonctionner à l'alcool, à l'essence, ou à un mélange de n'importe lequel des deux. Donc, c'est un héritage du temps de la dictature militaire, puisque de façon autoritaire, on avait décidé que toutes les stations-service du pays devaient avoir des pompes à alcool. Donc ça a beaucoup facilité les choses par rapport à des pays comme chez nous, où on est encore en train d'essayer d'installer le réseau. Donc voilà, ça c'est de là, c'est un peu la cavalerie lourde, la suivante. Mais il y en a bien d'autres cultures. Le Brésil a une gamme très très large de production, puisqu'il est à cheval sur plusieurs zones climatiques. Et je l'ai dit, il produit aussi du café, la canne qu'on a vue, le riz, surtout dans le sud, du manioc partout, c'est la base de l'alimentation, des oranges, plus des trois quarts du commerce mondial de jus d'orange, et le soja dont on a déjà parlé. Bon, j'ai choisi six produits, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Il est à remarquer que très souvent, on a une grosse zone productrice qui est de l'agro-business, et puis des zones dispersées qui sont de petite agriculture. Et plus de 70% des aliments consommés par la population brésilienne viennent de l'agriculture familiale et il se développe un secteur important d'agriculture dite organique, c'est-à-dire le bio de chez nous, puisque les citoyennes brésiliennes ont quand même entendu les discours qui se sont tenus dans les pays développés et se sont mises elles aussi à ça. Donc le Brésil peut se donner le luxe d'avoir une agriculture paysanne, une agriculture bio, une agriculture d'exportation, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de place. La suivante. Alors voilà les agrocarburants, il y en a pas moins, on a fait un recensement au Brésil, il y a pas moins de 18 plantes susceptibles de donner des huiles combustibles, plus l'alcool tiré de la canne à sucre, dont la grande carte montre la localisation de la canne à sucre en rose, dans l'état de São Paulo essentiellement, et dans le nord-est, l'ancienne zone un peu décadente du nord-est, et puis le soja, qui est la grande plante sur laquelle on compte ou on comptait depuis quelques mois. Je sens une forte décrue de l'intérêt pour les biodiesels, pour produire des biodiesels. Sur la petite carte, on a les autres produits, le palmier à huile, le ricin, le tournesol, etc. Il y a un très large choix et des localisations différentes, ce qui fait que le gouvernement brésilien appuie l'un ou l'autre en fonction de ses priorités régionales et sociales. L'huile de ricin, qui est si ça va bien sur votre écran, c'est ce qui est rouge-orange, et essentiellement dans le nord-est, c'est-à-dire dans la région la plus pauvre du pays, qui permet de faire une politique sociale. Il n'y a qu'un inconvénient, et depuis quelques mois c'est évident, c'est que l'huile de ricin se vend beaucoup plus cher pour la lubrification, des avions en particulier, que pour produire du biodiesel. C'est un peu absurde de brûler de l'huile d'une telle qualité. La même chose vaut pour le soja. La suivante. Alors voilà un peu une carte, c'est la seule qui ne soit pas de moi, c'est une carte qui a été publié par le gouvernement brésilien, qui montre ses projets en matière de construction d'usines de biodiesel et d'alcool. Vous voyez qu'il y a des projets très nombreux et qui s'éparpillent de plus en plus dans tout le pays, au point qu'on construit maintenant, ce sont les traits que vous voyez, on commence à construire des alcooloducs. C'est-à-dire, comme sortir l'alcool en baril, c'est plus possible, en camion, en citerne, c'est plus possible, maintenant on construit deux tubes de 3500 km de long chacun. Appel d'offres a déjà été fait pour sortir l'alcool jusque vers les régions peuplées du littoral, elles s'en parlent en particulier, et probablement pour exporter. Il y a quelques années, une délégation japonaise est venue au Brésil et a demandé poliment au gouvernement brésilien s'il voulait bien vendre 18 milliards de litres d'alcool, qui était la totalité de la production. Donc les Brésiliens ont dit non, pas vraiment tout de suite, mais si vous revenez dans quelques années, ça peut se changer. Donc il y a vraiment un effort très lourd qui est fait. La suivante. Le genre de choses qu'on voit sur les routes brésiliennes, vous avez, non, revenez un tout petit peu, les pompes à essence sont parfois marquées comme ça, c'est une pompe à alcool écologiquement correcte. Pas sûr qu'Alain Liquet serait d'accord avec cette propagande, mais c'est ce qu'on lit sur le bord des routes. La suivante. Alors, le problème principal, celui dont tout le monde parle le plus souvent, c'est le soja. Je vais juste retirer la, revenir un cran en arrière pour enlever la surcharge. Ça, c'est une vue qui est prise sur WorldWind, le logiciel gratuit de la NASA. Vous pouvez prendre ça chez vous si vous voulez. Ça, c'est l'avancée du soja dans la forêt amazonienne. Vous voyez que ce sont, au long des interfluves, en laissant un peu les rivières de côté, une conquête très importante qui est en train de se faire sur des centaines de milliers de kilomètres carrés au détriment de la forêt amazonienne pour planter du soja. Je vais remettre le petit panneau. Ça, ça a été pris sur un bord de route. C'est un panneau dans un bistrot de ces régions-là qui dit « je vends ». Une superficie pour planter du soja à 20 km de Campos Lindos et vous avez la superficie 25 500 hectares. Alors, si certains d'entre vous sont intéressés, le numéro de téléphone figure en bas, donc vous pouvez éventuellement candidater. La suivante. Alors, l'autre point sensible, et celui-là est vraiment sensible, je crois, et nous mettra tous d'accord, c'est que l'avancée du soja, on voit cette espèce d'avancée du jaune là, vers le nord, mais plus encore de l'élevage se fait directement au détriment de l'Amazonie. Cette carte montre le pourcentage d'augmentation des bovins dans les 10 dernières années qui séparent les deux recensements agro-pastoraux. On voit que les 3/4 de l'augmentation, elle s'est faite, du nombre des effectifs bovins, s'est faite en Amazonie. Et vraiment, c'est l'avancée sur la forêt pour le bois d'abord, puis l'élevage et éventuellement le soja qui est responsable de l'essentiel du déboisement de l'Amazonie. Vous m'entendez plus ici?
Ici.
Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît?
Voilà.
Alors, qu'en est-il de ces affaires de superficie? Alors, on peut à la fois, vous pouvez vraiment enlever celle du bas pour l'instant, je voudrais la commenter après. On peut dire qu'il y a effectivement beaucoup de place. Là, vous avez les 4 pays du Mercosur, vous voyez leur population, leur surface, et le pourcentage en superficie agricole. Vous voyez qu'il est assez bas, sur des superficies considérables, et surtout,
Ce qui est cultivé est extraordinairement bas. Le Brésil cultive 7% de ses terres, l'Argentine 10%, les voisins à peu près pareil. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de forêts. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser là-dessus? Là, on peut remettre le panneau du bas. Dans le cas du Brésil, il y a un calcul qui a été fait. Remettre le panneau du bas, s'il vous plaît. La vidéo qui a dû s'arrêter là. Vous voyez que c'est un calcul qui a été fait par des gens du ministère de l'Agriculture, en partie du mouvement coopératif, qui ont fait le compte de ce qui était disponible. Si on met de côté la forêt amazonienne, on ne touche pas à l'Amazonie, on laisse les pâturages comme ils sont, alors qu'en fait on pourrait en anticiper beaucoup, on fait le total des réserves de tout ça, de tout ce qui est déjà cultivé, d'après leur compte, on aurait disponible 800 000 km², c'est-à-dire 106 millions d'hectares, c'est-à-dire trois fois la surface agricole utile de la France. Alors, vous imaginez qu'il y a des débats là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire utile, pas utile, utilisable, pas utilisable, mais le fait est qu'il y a énormément de place sans retirer, sans déboiser et sans déplacer la petite agriculture. Donc, j'ai entendu ça j'ai lu plusieurs fois que les déplacements, que les grandes cultures se faisaient en déplaçant la petite paysannerie, je m'inscris en faux, c'est pas vrai, c'est pas mal, du tout dans les mêmes régions. La suivante. Voilà. Ça, c'est une carte un peu composite qui rassemble deux choses. Vous avez dans les couleurs rouges et oranges la proportion du territoire qui est cultivé. Vous voyez qu'elle est, elle n'est importante que dans l'État de São Paulo, dans le Nord-Est et un peu dans les régions d'agriculture paysanne du Sud, et que tout le reste est très peu cultivé. Mais c'est dans ces régions-là que sont les réserves biologiques, scientifiques, etc., et les terres indigènes, qui veut dire que tout n'est pas disponible. Mais cette carte que vous avez là est sensiblement la même chose que le tableau qui est attaché, qui est en dessous, qui veut dire que si on fait une politique raisonnable d'aménagement du territoire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il devrait être possible de faire beaucoup de choses, protéger la biodiversité, laisser des terres aux gens qui en ont besoin. Ah, d'accord, je peux faire un tableau. La suivante. Presque fini. Oui. Pour terminer sur une note malheureusement triste, tout ça se fait sur un fond de violence. Les cartes de la violence, elles sont plusieurs. Là, ce sont les cartes d'invasion de terres. Vous voyez que dans toutes les régions du Brésil, mais avec des concentrations dans certaines régions, des terres sont envahies, parce qu'avec toute cette place, il est paradoxal et triste que des gens soient obligés d'envahir des terres pour pouvoir les cultiver. La suivante. Là, ce sont les morts dans les assassinats ruraux. Il y en a aussi beaucoup. Ce n'est pas dans les mêmes régions, c'est surtout dans la périphérie amazonienne, qui est une sorte de Far West encore en pleine activité. Troisièmement, dernière carte. Là, c'est les cartes des homicides. Vous voyez qu'on parle toujours des morts qui se passent à Rio, à São Paulo et autour. Mais si on fait le calcul par 10 000 habitants, ben on voit bien que c'est ces zones des confins amazoniens où on risque le plus sa peau. Des gens, tous les ans, sont tués dans des conflits de terre. Et je terminerai par la dernière, qui est encore plus sinistre. Je suis désolé, je ne vais pas finir sur une note très gaie. C'est aussi au Brésil, dans ces mêmes régions, qu'on trouve de l'esclavage rural. C'est un travail inédit qu'on vient de finir pour le Bureau international du travail, qui est une sorte de cartographie de l'esclavage rural. Il y a eu plus de 20 000 cas constatés dans les dernières années, et qu'on a essayé de mettre en rapport ici à l'Université de São Paulo avec des facteurs explicatifs. En l'occurrence ici, c'est la date de création des communes. Plus elles sont récentes, plus on est dans les zones du front pionnier et plus ça coïncide avec l'esclavage rural. Donc, région solution peut-être, ferme du monde, pourquoi pas, de la place pour tout le monde, oui, mais visiblement, ça se fait pas de façon harmonieuse. Il y a encore beaucoup à faire pour que ça puisse se faire de façon plus rationnelle. Merci.